vous les attendiez avec impatience. Ils sont de retour. La Super Team! Pour commencer, Xavier Venn Bouchard, le poète assassin.
Oh, comme le sang a neigé, je n'ai plus de spasme de vivre.
Et derrière l'écran, notre analyste, Léon Arcan, a.k.a. Cringe Lord.
Captain Cringe présent.
C'est parfait ça, c'est cringe à souhait. Et votre animateur, Olivier Laurando, a.k.a.
Le Mentor.
Merci guys. Donc, ben bonjour à tous, on est heureux de revenir.
Yo, what's up, guys?
On s'est fait attendre, mais on avait bien besoin d'une petite pause, je pense. Ça nous a fait du bien. Puis, on a des super sujets full intéressants. On a peut-être une nouvelle petite recette.
On s'est cranké les neurones.
Exactement, c'était nécessaire parce que c'est tellement intellectuel, là, notre émission. Mais, ouais, c'est ça, on a une nouvelle petite recette qu'on a, on va avoir. À ce temps, on va toujours avoir une petite entrevue.
Là, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien d'intéressant à dire, fait qu'à la place, ça va être vous. Qui va dire, qui va parler de choses intéressantes, puis
c'est ça. Ben, en gros, c'est ça, puis ça va être tellement plus cool, là, parce que avoir des gens qui connaissent leur truc. Donc, ben, c'est ça, on va commencer, vous savez, le premier sujet, en général, c'est toujours un peu stupide, puis, ce podcast-là va être dans la même veine, ça va être stupide, notre premier sujet, on va parler d'une mascotte, qui est un peu vilain en fait, qui s'appelle Greety. Pour ceux qui ne connaissent pas Greety, je crois que ça fait à peu près Léon va pouvoir m'aider avec ça, je pense. 2-3 ans qu'il existe, Léon?
Il a été introduit en 2018-2019.
Exact.
C'est la mascotte de quelle équipe?
Des Flyers de Philadelphie, qui est une équipe réputée pour être une équipe de goons. Okay. C'est-à-dire, à l'époque, goons, c'est juste, ils se battaient tout le temps. Là,
okay. Mais c'est une équipe de hockey, de football?
Oui, c'est une équipe de la NHL. Donc, c'est ça, comme je
disais. Ils sont réputés pour avoir des partisans de merde.
Léon, absolument, il est trash, mais c'est vrai qu'ils ont les partisans, ils ont une très mauvaise réputation. Okay. Dans ce cas-ci, on voit que leur mascotte, Greety, est un peu à leur image. Parce que, cette mascotte-là a tabassé, il a frappé un enfant de 13 ans.
Je sais pas si tu peux mettre l'image où est-ce qu'on court de l'article, mais ils disent le plus fort possible entre guillemets. Donc
je vais juste faire lire le début de l'article, vous allez voir en quoi ça consiste. Donc la police de Philadelphie a indiqué mercredi que la mascotte des Flyers, Greety, est sous enquête parce qu'elle aurait frappé un garçon de 13 ans durant une session photo en novembre dernier au Wells Fargo Center. Donc un jeune de 13 ans. Alors pour la suite, c'est le partisan des Flyers, Chris Greenwell, a confié au Philadelphia Inquirer que la mascotte aurait frappé son fils Brandon, pauvre petit Brandon, dans le dos le 19 novembre, alors que les Flyers affirment en guise de défense que Greety aurait été frappé à répétition à la tête. Sur moi, c'est un cas classique, tu sais, du petit gars qui gosse la mascotte parce qu'il veut son attention ou peu importe. Puis lui, il va aller, je pense, cette année, fait qu'il l'a juste punché.
Ouais.
Ce qui est quand même vraiment...
Mais tu sais... Ça excuse même si, pas son geste. Peu importe ce que le petit gars a fait, t'as frappé un enfant.
Ouais,
prison.
Ouais. Hey, en plus, t'es là, c'est ça ton rôle. Là.
Ouais, c'est ça. t'sais, je veux dire, quand t'es petit, là, les mascottes, là, tu tires un peu dessus. Là, tout, là,
mais c'est comme quand t'es petit. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'allais voir, mettons, du baseball, du hockey. C'est un ou l'autre. On dirait, soit les jeunes sont genre apeuré d'une mascotte ou c'est comme leur idole. Fait que tu sais, soit tu t'approches ou ben non, t'es trop après. Tu sais, j'en ai vu plusieurs des kids là, qui sautent dessus. Puis que, tu sais, c'est ça, ça fait partie de ta job.
C'est ça.
Puis tu sais, on va se dire, dans un gros masque de même, puis des punchs d'enfants, là, ça doit pas vraiment faire mal. Ça l'a juste gossé.
13 ans, tu sais, ça
peut-être,
commence
peut-être, peut-être.
Juste... En plus, Brandon, ça doit être un nom qui bien, là. Mais.
Ouais. Donc, c'est pas mal ça.
Mais la mascotte fait peur, pour donner un point à Brandon.
Pour bien la décrire, on dirait un Yuppie un peu has-been, là, un peu genre...
Un peu sur le crack.
Ben, c'est ça, puis... C'est ça, là, je pense que le crack lui est monté au cerveau.
Ben moi, moi, en fait, j'ai trouvé... Il y a des commentaires par rapport à l'article en question. Ouais. Et puis, il y a un certain Monsieur Smith qui a dit que le petit gars méritait d'en avoir une.
Mais ça montre que les fans de hockey, en général, des fois, c'est pas des gens super.
Ah, je sais, mais... je sais, les gars. Je sais, les gars.
Mais moi, j'aurais un autre article, en fait. Tu sais, pour amener les gens à poursuivre leur réflexion par rapport à ça, en fait, j'ai trouvé un nouvel article du Soleil de Anne-Sophie Poiré, qui est dans la peau d'une mascotte vidéo plus photo. C'est qu'elle nous raconte c'est quoi son expérience en tant que mascotte. Puis ça pourrait peut-être, je veux pas être l'avocat du diable.
Je sais pas si c'est choquant. On va voir, ouais, ça va donner une idée un peu aux gens. C'est que...
Ben, ça a l'air que c'est très difficile. C'est ça que j'ai compris dans l'article.
Ouais, on n'en doute pas. Là, c'est quand même... Ça demande plusieurs expertises quand même, être une mascotte. On rit de ça, mais comme il y en a qui savent faire des pirouettes ou quoi que ce soit. Des fois, c'est des gens de cirque carrément. C'est des amuseurs. Je veux dire, hey, tu passes une heure et demie, tu fais que ça, là, être crinqué à fond, puis être à bloc, puis tout le temps, genre être trop hypé pour ce qui se passe, comme il se passe une affaire, puis là, t'es comme « Ah! » puis tu sautes partout, tu sais, c'est comme, c'est exigeant, je suis sûr qu'après une game, tu dois être genre « Ok, man, tu fumes ta petite cigarette là, à la sortie du stade, puis t'es comme « Ok, là, c'est
ça. » Ouais, mais tu frappes pas des enfants.
Bon point. Donc, c'est pas mal juste ça là-dessus. Ensuite, y a le prochain point qu'on veut approcher, c'est ben, une découverte que moi j'ai fait, ben, je connaissais déjà l'existence de ça, mais pendant le temps des fêtes, on a essayé ça justement. Ouais. Notre team à nous, Xav, Oli, puis Léon. On a fait un escape room. Donc,
on en a même fait deux.
On a fait deux escape rooms. Puis, je veux juste, c'est pas pour se vanter, mais ces deux-là, on les a réussis.
Et voilà.
Puis on était assez fiers de nous autres. On était on top of the world.
Donc, à double tour.
Oui, c'est ça. En gros, ça a été, nous autres, on était à double tour, qui était une expérience, franchement, là, c'était vraiment excellent. L'immersion était vraiment parfaite. Je pense que, bon, il y a des préférences. On a commencé un, on va les dire. Le premier, c'est Va chez le diable, qui était un peu sous le thème de l'enfer de Satan. Je pense que la prémisse, c'était...
Ben, c'était très québécois, là, tu sais, sur le...
Il y avait des folklores, tout ça, c'est vrai.
Folklore du diable, tu sais.
Exact. Puis je pense que la prémisse, c'était que on était mort trop jeune, si on veut, là, c'est ça qu'on nous disait, puis que fallait qu'on essaie de revenir sur Terre.
Ben, le diable nous faisait un deal.
Exact.
Que si on réussissait à s'échapper de ses souvenirs, c'est les souvenirs du diable. Donc, c'était plusieurs histoires du folklore québécois avec le diable.
Exact.
Puis si on réussissait à s'échapper de ça, on sauvait nos âmes.
Exact.
Et on a sauvé nos âmes à 15 minutes près.
Ah ouais. Mais celle-là, il était pas trop chaud. C'était pas si pire.
Ouais.
Mais l'autre d'après, qui était... Ouais. C'est comment ça s'appelle?
Les dunes.
Ouais. Exact. Qui était un truc pharaon égyptien un peu. Là. Puis celui-là, on l'a eu sur la peau des fesses.
Ouais, on l'a eu 15 dernières secondes, on est sorti.
Ah ouais, c'était comme un film. Là. C'était vraiment... Ouais. Puis ce qui était énervant avec ça, dans les deux... C'est que à la fin, il y a toujours une musique comme justement pour qu'on soit plus dans le monde, dans l'univers de où est-ce qu'on est, puis elle accélère à la fin pour nous indiquer un peu le temps.
Ouais. Mais il y a des instruments qui se rajoutent, puis ça devient intense.
C'est stressant, là. Ouais. Dans le Voix chez le diable, il y avait un violon, là, t'étais comme oh my god, ok, wow, là c'est, ça devient shit just got real. Là,
mais je sais pas si t'as remarqué, mais Émilie m'a expliqué ça après, vas-y. Mais. c'est parce que le violon s'ajoute quand on réussit l'énigme du violon.
Ouais.
Ah ouais, ça, le piano s'ajoute quand on réussit l'énigme du piano.
Ah, oh, mais on a le shotgun là, après
ah,
le...
mais c'est ça, mais ils ont comme raté nos cues, c'est pour ça qu'on l'a comme pas. Parce
pas
que tu sais, ils doivent l'activer même, mais en tout cas.
Mais quand tu le sais pas.
Ah, mais on vient de spoiler.
Ouais, c'est pas un gros spoil. Ah, il y a un violon puis un piano, guys.
Quand on réussit le violon.
Good luck. Ouais. On n'a pas vraiment clarifié c'est quoi un escape room. Peut-être, Léon, tu peux juste checker genre dans les détails, mais en fait, c'est pas compliqué. Vous me corrigerez si je me trompe, mais ça consiste souvent avec plusieurs pièces. On a une. Après ça, une fois qu'il y a cette pièce-là, il y a des énigmes. On va résoudre ces énigmes-là. Après ça, on va pouvoir aller à la prochaine pièce. Puis, naturellement, ben, c'est de plus en plus difficile. Ben, c'est tout dépendamment genre des gens. Il y a des énigmes pour toutes sortes de personnes. T'sais, il y a des énigmes qui vont faire appel plus à votre sens de l'observation. Des fois, ça va être un peu plus la logique. Ça va être toutes sortes de trucs. Puis justement, ça varie. Là,
aussi, ça va être... Ça va des fois aussi tester votre complicité. Parce qu'il y a certaines énigmes qui sont juste
aussi,
sont en coopération, qui sont faciles à exécuter, mais qu'il faut bien communiquer. T'sais.
Ouais. Puis même nous autres, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait comme un peu nos forces aussi. Il y avait des choses. Léon, il veut, je sais pas, il va vouloir s'en vanter, mais il y a une shot à un moment donné. dans Vaucheliard, ben, on était un peu bloqués. Là, on cherchait un peu. Puis là, à un moment donné, il y avait une autre pièce que j'avais pas vraiment vue, mais j'avais regardé vivement. Mm. Puis là, j'en remonte. Puis là, il y en a un qui avait été résolu. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Puis c'était Léon qui avait. Léon, il avait fait ça tout seul dans son coin. Il avait rien.
Capitaine Cringe.
Captain Cringe, j'allais. J'encourage les gens à y aller. C'est bon pour rassembler, mettons, une équipe de travail. Mm-hmm. Parce que, tu sais, t'es tellement dans le focus, t'es tellement dans ça. Puis t'es tellement, tu sais, ça te rapproche des gens. T'es obligé de coopérer avec eux. Puis c'est super.
Ouais, il y avait un coupon.
Ouais.
Pour qui proposait, tu sais, c'était vraiment comme si t'étais un boss, inscrit ton équipe de travail là parce que ça soude, puis ça augmente la complicité puis la coopération. Fait que là, on va essayer d'envoyer nos factures à Martin. On va voir si.
Hey, Martin, on est hot là.
On les a réussi en plus.
Paye-nous ça, Martin. C'est ça.
Ouais, c'est ça. À la base, tu sais, les escape rooms, c'est ça. C'était développé à partir des jeux vidéo. Ils ont développé ça à partir des jeux vidéo. Puis ça a commencé vraiment à être populaire dans les années 2010. Qu'est-ce qu'il disait dans un article que j'ai lu, c'est que ça s'est retrouvé dans toutes les grandes métropoles du monde. Puis en 2016, une enseigne de jeux d'évasion ouvrait tous les trois jours en moyenne en France.
Aïe, aïe. À tous les trois jours?
À tous les trois jours. Ici, ça a pris un peu plus de temps là, à grandir, ouais. Tu sais, parce que qu'est-ce qu'il disait, c'est qu'en 2015, ça a vraiment commencé à pousser, mais en France, ça a vraiment commencé à partir des années 2010. Mmh. Puis ça a commencé à la base au Japon. Au Japon, qui a créé des salles de grandeur nature, des jeux d'évasion de grandeur nature. Mais c'est ça, il s'était inspiré à la base de jeux vidéo.
Mais j'avais entendu parler qu'il y avait aussi certains films qui avaient inspiré ça, comme il y avait The Cube, puis ça, qui étaient des trucs, tu sais, de...
Clairement.
Puis c'est vrai quand tu y penses. The Cube, c'est vieux, là, c'est avant 2000. Là. Puis c'était vraiment ça, c'était comme un des plein de pièces qui étaient faites en cube, justement, comme un peu un cube Rubik, si on peut s'imaginer, comme une forme 3D. Puis les gens pouvaient passer de salle en salle, mais pour le faire, il fallait qu'ils fassent soit des sacrifices, genre de, mettons, donner une oreille ou un truc du genre, ou ben non, c'était des énigmes, fucké, puis t'avais un timer, sinon il y en a un qui mourait, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un peu ça le principe. Ouais. Donc on voit que ce concept-là existait, ça fait plusieurs années. Mais là, récemment, là, c'est le nouveau truc hype, là, aller faire ça. Puis je trouve ça super intéressant, surtout dans un monde, c'est ça que je parlais plus tôt, dans notre monde où est-ce qu'on est plus axé à la technologie, puis ça. Puis des fois, on a moins. C'est le fun d'avoir des activités comme ça qui rassemblent les gens. C'est eux, là-bas, c'était prohibé, là, genre, mettons, t'as pas le droit d'avoir ton cellulaire. C'est comme pendant que t'es dans ce jeu-là, t'es coupé un peu de ton monde de genre.
Ouais, c'est ça, t'es juste comme.
Ça...
Moi, un peu moins dans les dunes parce que tu sais, j'ai moins aimé, puis les sortes d'énigmes me faisaient sortir de l'univers parce qu'il fallait comme plus réfléchir sur okay, comment ils ont pensé.
Un peu, là, je comprends.
Mais pas out the box, mais tu sais, comment est-ce que. Ok, ça, ce que. Ok, dans le fond, tu sais, on comprenait l'énigme, mais de la placer dans le décor, c'était un petit peu plus difficile.
Ouais, il y avait des affaires
mais
de chier un peu. Là.
Dans l'autre, dans Vaucheliard, tu sais. T'sais, je voulais là, sauver mon âme, là. C'était,
ouais, ouais,
c'était intéressant.
C'est super, puis c'était plus droit au but, comme tu dis. OK, on a fait ça, on passe au prochain. C'était plus clair,
c'est ça,
idée. Mais tu sais, je pense que il y en a pour tout le monde.
C'est ça, ouais. C'est juste des différentes intelligences, de différentes sortes de personnes.
Il y a peut-être des gens qui vont aller faire les dunes, puis vont préférer, puis c'est jamais pareil pour personne, tu sais. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est des gens qui voudraient essayer puis qui sont pas trop sûrs, ben il y a des jeux vidéo, des apps, puis aussi des jeux de société qui est dans la même veine, où est-ce que vous allez comprendre un peu le principe des escape rooms. Puis vous aurez pas besoin de dépenser parce que ça coûte. Bon,
disons, on l'a ça eu. Coûte cher.
C'est ça. Ça va coûter jusqu'à 30$ en moyenne, je pense. Je sais pas
par
tous
personne.
Les endroits. Ouais, par personne. Donc, mais tu sais, il faut se dire qu'on comprend pourquoi.
Presque que 40 en fait.
Ouais,
c'est comme. Que... à double tour, c'était 37, je pense.
Ouais, tu sais, il faut dire, il y a un animateur, il y a des trucs qui viennent avec ça. Mais ça en vaut la peine. Surtout, quand t'en réussis un, et tu te sens vraiment.
Ouais, après ça, t'es sur le party.
Ah,
là,
ouais,
comme,
on est
bien. T'es fier, là. T'sais, surtout après ça, ils te disent le pourcentage de réussite. Là, t'sais,
ouais.
Là, nous autres, on a fait des faciles, fait que c'était, je pense, 20 puis 15%.
Puis même 15-20, c'est pas.
Tu sais, je veux dire, une personne sur 5 l'a réussi. Nous autres, on a réussi. T'sais,
Ouais, après, à chaque fois, on va prendre une bière, puis on est comme, on est bien. Puis, tu sais, on est fou, on est vraiment fiers de nous. Mais vous, je pense, vous en avez fait d'autres que vous n'avez pas réussi. Mais il y a des gens qui m'ont parlé d'un escape room qui n'ont pas réussi. Puis ils ont quand même eu vraiment le fun pareil.
Oui, c'est ça. T'as du fun pareil. Là, t'es...
C'est ça.
Moi, à date, j'en ai essayé trois à Québec. J'ai essayé Jigsaw, qui est sur la rue Saint-Jean. J'ai essayé Défi Évasion Québec à côté des galeries de la capitale. J'ai essayé à double tour. Puis à date, mon préféré, c'est à double tour parce que, tu sais, dans Défi Évasion Québec, honnêtement, ben, il manquait des affaires dans la pièce, tu
Ouais,
sais.
ça
Pour
c'est vraiment
compléter la pièce, il nous manquait des choses. Puis genre, c'est juste eux qui n'avaient pas fait.
C'est vraiment dommage, par exemple.
C'est ça. Puis c'est pas mal ça. À Jigsaw, j'avais bien aimé. Honnêtement, on l'avait pas réussi, mais
Ouais,
ça
t'en as
avait été quand
entendu
même difficile.
ouais.
Puis tu sais, j'avais bien aimé, mais vraiment, à double tour, ça reste quand même
Mais j'en entends
la crème
Jigsaw,
de
j'en
la
ai
crème.
entendu parler en bien là, vraiment, franchement là.
Ouais.
Puis
Moi, je suis allé
justement.
à Jigsaw aussi, puis j'ai bien aimé.
Sinon, il y en a d'autres, là. Il y a Exode Québec, Jeu d'évasion, qui est.
Je suis allé à Exode aussi, je pense. Je me rappelle plus si c'est ça le nom, mais je suis allé à. Il est juste à côté de à double tour.
Ouais, c'est sur Bouvier, celui-là. Puis
Ah,
sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut,
c'est ça, c'est sauf qu'il peut, je
c'est
savais,
juste
ouais,
à
je sais toujours
côté.
rien.
Il y a aussi un autre défi évasion à Lévis, si le monde de Lévis veut y aller. Il y a un cabinet mystery dans Saint-Sacrement. Il y en a aussi à Sainte-Foy. Il y en a un peu partout, honnêtement. Tu sais, c'est vraiment.
Émilie m'en a parlé de celui-là, elle me l'avait conseillé. Cabinet Mystery, tu dis?
Ouais.
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 Du mystère. Il me
Mystery.
semble que c'était pas tout
Ouais,
à fait ce
ouais,
nom-là,
mais.
mais elle m'a parlé de ça.
Cabinet Mystery.
Mais bon, c'est ça. En bref,
Ouais.
les jeux d'évasion, c'est à essayer.
Exact. Donc, ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu, on avait fait un vlog, on avait été patinoire, on a eu du fun, puis après ça, le plan de match, c'était ça, on avait plusieurs activités, puis après, on voulait aller à l'escape room. Puis, en allant vers l'escape room, Xavier allait acheter des serviettes sanitaires. C'était pour sa blonde. Puis, nous autres, on y va là, bien innocemment, bien relax.
C'est ça.
Puis, on était au métro. Je pense que c'est la seule place qui était ouverte. Les
Ouais,
supermarchés
mais
étaient
puis
ouverts.
c'était proche de où est-ce
C'était
qu'on allait
proche.
après.
C'était sur notre trajet. Puis, on est rentré là. Premièrement, Léon, il dit: Ah, je vais aller aux toilettes. Il s'en va, il va aux toilettes. Moi, puis Xav, on continue, on rentre. Puis, on avait chacun un sac. Parce qu'on avait pas mal de stock à trimballer, là,
Ouais.
on avait une bonne journée de planifier
Ben
devant nous,
ouais.
là. Puis, je sais pas si. Il y a souvent un garde de sécurité à l'entrée, mais en fait, je pense qu'il y a toujours un garde de sécurité à ce métro-là, je pense.
Oui,
Pas mal sûr
pas
qu'il y en a
mal
tout le
sûr.
temps un. Puis, dès qu'on est entré.
On s'est fait suivre de très très proche, de
Ouais.
façon intimidante.
Ouais,
Quand,
ouais,
tu sais, je me suis arrêté, j'ai regardé le garde de sécurité dans les yeux, là,
ouais. Ouais.
carrément, puis tu sais, il a continué à avancer vers moi.
Oh, il
C'était.
était pas, lui, il a pas de gêne là, pour lui là,
Il n'y avait
il...
pas de gêne, fait que là, ben, tu sais, sur le coup, tu sais, moi, mon réflexe, ça a été de niaiser pas mal. Donc, tu sais,
Ouais.
genre,
Il disait des niaiseries là, je
c'est
peux en
ça. Donc,
témoigner.
tu sais, genre, je disais, bon, comment je vais réussir à voler tout ce métro-là aujourd'hui? Des affaires comme ça. Puis, tu sais, il m'entendait, mais crime, j'allais acheter des serviettes sanitaires, là.
Il y avait plein de monde là,
Il
je
y
me
avait
souviens.
plein d'autres mondes.
Puis c'est la façon qu'il le fait aussi. D'autres, on s'en va, on va directement dans une
C'est
allée.
ça, ouais.
Puis il nous suit de près. Puis non seulement, tu sais, il aurait pu arrêter au bout de l'allée ou
C'est
quoi que ce
ça.
soit, puis nous regarder.
C'est ça.
Non, il s'est arrêté exactement où est-ce qu'on était, à nous regarder les bras croisés, à
C'est
l'attendre.
ça. Quasiment à nous bloquer la
Mais
sortie,
c'était
là.
carrément, tu sais, c'était intimidant à un
C'était
certain.
très intimidant, puis tu sais, t'étais pas à l'aise, là, je veux dire.
Exact. C'était une expérience vraiment pas le fun. Puis là, Léon, après, il y revient un peu plus tard, puis il nous dit: Ouais, je pense que le gars, il vous suit. Hein.
Ben
Mais
oui.
on le sent. Inquiète pas, on le sent,
Mais tu sais,
maudit.
moi, au début, j'étais comme, oh, il doit avoir quelque chose dans notre allée, tu sais, pour qu'on nous
Ouais.
suive. Genre, je suis comme là, tu sais, ah, tu sais, c'est correct. Puis
Ouais.
là, il s'arrête devant nous, je fais comme, oh, ok, là, tu
Ouais.
sais. Là, je me suis mis à niaiser, là.
Mais c'était mérité, là. Puis, mais pour ça, de le
Ok,
niaiser,
bon.
pas de nous regarder. Tout ça pour en venir à un phénomène qu'on entend de plus en plus souvent parler, c'est le profilage. Les raisons pourquoi il nous a suivis. C'est pas vrai que c'était une raison. Ah, le 8e client, je vais le suivre. C'était vraiment pas ça, là. On était plus jeunes, on avait des sacs, peu importe.
Ouais, c'est
Peut-être
ça.
qu'on avait. Je sais pas, je pense pas qu'on avait une attitude de.
Ben non, on n'était pas une gang, là, on était deux,
C'est
là,
ça,
t'sais.
on était deux à ce moment-là, puis de se faire suivre comme ça, c'est vraiment pas. Les autres, on en parle comme ça, puis c'est niaiseux un peu. Puis imagine, il y a des gens dans la vie de tous les jours, ils doivent avoir beaucoup de profilage à leur endroit. Ils rentrent dans un commerce ou même sur des endroits publics, des fois. C'est présent partout, tu sais, on douane, des choses du genre. Puis c'est quelque chose qui est dérangeant, là. Puis je pense que Léon, il y a quelques exemples des sortes de profilage que les gens peuvent être victimes, en fait, là.
Ouais, ben en fait, tu as le profilage racial.
Ouais.
Premièrement, tu vas suivre
On
une
l'a
personne en
fait aussi
fonction, tu sais,
aux
comme.
États-Unis.
Le profilage social, qui est une forme de discrimination, tu sais, tu vas aller le voir selon sa, tu sais, comme si c'est une personne, mettons, qui a des revenus moindres. Ouais. Tu sais, tu vas aller le voir parce que là, tu te dis, ah, il va peut-être voler à cause de ça. Il y a aussi le profilage politique, qui est en fait selon les idéaux de la personne, selon les idées défendues par cette personne-là, ben, tu vas le suivre en fonction de ça. Puis, il y a aussi du profilage selon l'âge. Selon c'est un peu
le
ce qu'on a vécu
aussi, je pense, le, si t'es un gars tu vas te faire plus regarder que si c'est une fille qui rentre dans un magasin, exemple. L'âge, c'est aussi un truc là.
C'est poche quand ça arrive, puis tu sais, nous autres on l'a vécu de façon très très légère, puis ça nous a pogné là, t'sais, en dedans tu te sens mal là, pendant que ça arrive, donc je peux même pas imaginer pour des personnes que c'est pire, puis que c'est dans des situations que ça peut être grave. Là.
De te faire soupçonner d'être un voleur, quoi que ce soit, c'est comme
ouais, c'est poche.
Puis, en plus, il y a une autre affaire que je trouve... En tout cas, dans ce genre de commerce-là, je sais pourquoi ils ont un garde de sécurité à l'entrée. Parce que oui, ils ont du monde pas le fun. Tu sais, je le sais,
oui,
on les
oui,
voit.
Je...
C'est correct, c'est justifié. De là à suivre des gens, ça, c'est une autre histoire. En plus, ils ont des caméras de surveillance. Je veux dire, à un certain point, au pire, si tu pognes quelqu'un sur caméra, toujours moyen de garder une archive. Il n'y a pas besoin de quelqu'un physiquement qui regarde ce que tu es en train de faire. Qui que ça y tente de faire ses commissions, genre avec quelqu'un qui te regarde au-dessus de ton épaule si tu n'es pas en train de le mettre dans tes poches. Tu sais, sérieux, c'est pas fort. Là. C'est vraiment désagréable.
En fait, dans l'article que je suis en train de lire, l'élément déclencheur du profilage, ils disent que l'élément déclencheur des profilages social et politique repose non pas sur l'appartenance réelle de la victime au groupe profilé, mais plutôt sur son appartenance présumée à un groupe à risque.
Ben, c'est ça. Exactement.
Nous, ils pensaient réellement qu'on était des voleurs.
Ils devaient se dire...
Exactement ça. Puis je pense qu'on aurait eu le droit de dire non. Tu sais, comme ça n'avait pas rapport.
On aurait pu se plaindre, effectivement.
Mais ben oui, mais comme... Tu sais, tu te sens tellement mal quand ça arrive que, tu sais, avec le recul, oui, mais comme là, on a juste...
Non, c'est le coup, on voulait juste sortir.
On voulait juste... Moi, j'avais besoin d'acheter ça, puis là, tu sais, c'est comme...
Ah ouais, puis on s'en va. Ouais. Parce que, tu sais, en plus, nous autres, on voit ça comme une petite expérience. Tu sais, on sait qu'on sort de là, puis on c'est fini, là, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas, tu sais. Donc, c'est tout. Mais pour terminer, justement, comme je vous ai dit au début du podcast, à cette heure, on va avoir toujours des petites entrevues. Celui-ci va être sur l'enseignement. Vous allez voir, il va être fait en deux volets. J'ai interviewé deux personnes. Je vous laisse découvrir c'est qui pendant l'entrevue. Je crois que je l'ai bien présenté. Alors, c'est à peu près tout. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une courte entrevue avec nul autre que ma petite sœur. Elle est là ici aujourd'hui pour parler de l'enseignement. Pour commencer, je crois que les gens sont pas toujours au courant de ce que c'est que le milieu de l'enseignement. Puis justement, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la réalité et est-ce que c'est passionnant comme milieu. Là, j'ai des enseignants qui vont être au niveau du primaire, dans mon cas. Il faut naturellement un bac en enseignement. Mais je crois que pour toi, Evelyne, c'est un peu différent dans ton cas. T'as pas le même bagage, c'est bien ça?
Ouais, ben dans le fond, pour être enseignante au primaire, faut que t'aies fait un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire, donc maternelle et première à sixième année. Moi, dans mon cas, j'ai fait un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis pas dans les classes qui sont dites régulières, donc pas le parcours que nous, on a eu, qui est le parcours typique. Moi, je vais dans le parcours qui est un peu plus atypique, qui est les classes d'adaptation scolaire. Donc, c'est toutes les clientèles, dans le fond, qui sont dites en difficulté. Ça peut être la déficience intellectuelle, TSA... Ça peut être dyspraxie, des troubles de langage, ça peut être juste des difficultés d'apprentissage. Bref, je touche à tous les types de difficultés.
Vous allez voir un peu la petite différence. Je pense que dans ta classe, justement, c'est pas tout à fait la même réalité. Tu as une petite particularité. On va voir ça, justement, plus tard, qu'est-ce que ça implique exactement. Donc, en gros, ce que je crois que les gens aimeraient savoir, en quoi consiste ta tâche? Puis, aussi, qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là?
Ben, qu'est-ce qui m'a amené par l'enseignement? Ben, c'est sûr que on est un peu plate, mais toute notre famille est enseignante.
Ouais.
C'est sûr que ça faisait partie, pas en arrière de ma tête, tout le long qu'on a
exact.
Grandi.
Ben, pour justement compléter ce qu'elle vient de dire,
Ben, c'est dans la famille, je crois qu'on a une tante, notre grand-mère, la mère, ma sœur, puis même moi. Donc, on est vraiment une famille d'enseignants. On a ça dans notre génétique, là, il faut croire. Donc, ouais, excuse-moi, tu peux continuer.
Ouais, donc, c'est ça. J'ai toujours eu ça en tête que j'allais peut-être devenir enseignante. J'aimais ça jouer quand j'étais plus jeune. J'aimais ça jouer dans ma chambre. J'avais un tableau, puis j'enseignais à mes toutous les choses que j'apprenais à l'école. Donc, c'était comme mon jeu un peu préféré. Puis sinon, moi, j'ai longtemps fait du bénévolat avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment aimé travailler avec des jeunes, dans le fond, qui sont différents de nous. C'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai fait ça quand même pendant 6 ans, de mes 6 à 12 ans. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. Donc, on dirait que je pense que c'est ça qui m'a amenée vers ce domaine-là, le domaine de l'adaptation.
Tu trouvais ça comme aussi attachant aussi, hein, ces gens-là? C'est des gens qui déploient beaucoup d'amour, là, si on peut dire.
Oui, mais dans le fond, ils sont tellement différents quand tu le regardes ou quoi que ce soit. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est différent de moi.
Ouais.
Mais au final, en passant du temps avec eux, tu te rends compte que c'est les mêmes personnes que nous. C'est juste que tout est merveilleux. De la neige dehors qui tombe, c'est extraordinaire. Donc, on va le vivre de manière extraordinaire.
Ils s'ébahissent devant n'importe quoi.
Oui, fait que c'est vraiment ça. Les merveillement que je vois chez les gens qui sont différents, mais ça m'a vraiment, éveillé une petite passion. Puis c'est pour ça que je me suis enlignée dans l'enseignement.
C'est très compréhensible. Puis aussi, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais je crois que c'est un petit défaut à toi que tu as vécu avec au cours de ta vie ou au cours de tes études, hein, c'est bien ça. Je sais pas si on pourrait parler vite fait, mais tu sais, ça te rapproche un peu des élèves qui ont des difficultés, là.
Dans le fond, c'est ça, j'étais un petit peu pas en trouble de comportement, mais j'avais des difficultés comportementales.
Ouais.
Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que j'étais côté la petite crisse. Donc,
celle qui
était souvent envoyée chez le directeur, celle qui se battait, celle qui envoyait promener tout le monde, que ce soit des élèves ou les enseignants. J'ai eu cette petite passe-là de plus de difficultés comportementales. Puis aussi, j'ai une surdité. C'est sûr que ça amène des difficultés au niveau, surtout des dictées. Donc, tu sais, j'entends pas bien ce qui est dit, donc c'est un peu difficile pour moi d'aller les écrire. Puis pour moi, ça, les dictées, ça a vraiment été un...
Ben, je peux comprendre. Puis c'est aussi, tu sais, c'est quoi avoir une attention ou quelque chose qui demande quelque chose de comment dire, un peu plus d'attention, là.
De s'adapter, donc.
Exact. Donc, je sais que tu viens d'avoir une job. Félicitations.
Oui, merci.
Tu viens juste de commencer. Je crois que c'était ton premier quelques mois.
Oui.
Puis, en gros, j'aimerais ça savoir comment tu es arrivé à avoir ce job-là. Je crois que ça a pas été de tout repos. Donc, vas-y, je te laisse expliquer ça.
Dans le fond, j'ai terminé en avril 2019. Mm-hmm. Donc, j'ai terminé mon bac. Yes. jusqu'en juin, j'ai fait un petit peu de suppléance.
Ouais.
J'ai fait de la suppléance dans la commission scolaire où j'ai fait mon dernier stage.
Mm-hmm.
Donc, j'ai fait de la suppléance, entre autres, dans la classe de ma mère. Puis, beaucoup, beaucoup à l'école de stage où j'étais. Donc, ça a été jusqu'en juin. Et puis là, tu as 2 mois d'été à faire ta job étudiante et à attendre avec impatience la mi-août. On se souvient que l'école commence à la fin août.
Ouais.
À la mi-août, les enseignants qui sont sur la liste peuvent choisir leur contrat pour l'année.
C'est vraiment eux qui ont priorité, c'est
ça? Oui, c'est ça. Il y a une liste qu'on appelle la liste de priorité. Donc, les enseignants qui sont sur la liste peuvent choisir les contrats qui sont disponibles.
Puis toi, tu es comme dans une sorte d'attente jusqu'à ce que
Moi, je suis même pas sur une liste.
Ah.
Donc, je n'existe pas.
Nice.
Dans le fond, vu que je viens de terminer, je n'existe pas. Les directions ne savent pas que j'existe ou quoi que ce soit. Donc, c'est moi qui dois aller voir les directions, aller dans les écoles, faire comme...
Tu appliques, en fait.
Oui, c'est ça.
Parfait.
Moi, je suis allée avec la simplicité. Je suis allée dans mon école de stage. Je le savais qu'il y avait au moins un contrat qui n'avait pas été pris.
Puis les gens te connaissent.
Puis les gens me connaissent. Donc, je suis allée là. Je suis allée voir la directrice. Puis je lui ai dit, peu importe ce que t'as, je le prends.
ma foi, c'est un très bon plan.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme de fait, elle m'a rappelé et elle m'a proposé 2 contrats.
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu à choisir. Donc, j'ai été quand même assez chanceuse de ce côté-là. Puis j'ai fait un choix qui était pour l'année. Donc, je suis allée vers la stabilité et non vers mes intérêts, nécessairement.
Parfait. Puis, tu as fini par trouver quelque chose.
Ouais.
Puis, tu me parlais, justement, quand tu as commencé à travailler, il y a des petits aléas de la vie de tous les jours. Il y a des petits trucs qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme tu voulais ou qu'on ne t'avait pas nécessairement préparé à ça.
Ouais, dans le fond, quand tu vas en enseignement, tu penses que tu enseignes.
Ouais.
C'est ce que tout le monde pense. Et c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tu apprends dans ton bac. Hein, tu vois la gestion de classe, donc gérer les élèves. Tu vois tes cours de didactique de français, didactique de mathématiques, les sciences, univers social, et voilà, tu es prêt à enseigner. Mais quand tu arrives en enseignement, tu te rends compte que la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus que ça.
Ouais.
C'est moi, ce qui m'a été le plus difficile, je pense, c'est la photocopieuse. La motadite de photocopieuse que j'ai encore de la difficulté. Ça reste un défi, c'est niaiseux, mais je sais pas comment ça marche, je suis pas bonne là-dedans. Puis, tu sais, j'ai vu recto verso, là, j'ai oublié de faire mes trous, mais là, j'ai fait 50 feuilles, fait que là, il faut que tout que j'efface avec mon petit, la petite perforeuse. Là, ah, j'ai oublié des agrafés, ah, là, je voulais pas ça, ah, je voulais pas les avoir couleur. Donc, c'est tout le temps des petites choses.
Puis... c'est des trucs de base, là, mais tu sais, on se rend pas compte que, en fait, mais je sais pas si tu t'en rendais compte pendant que tu faisais ton bac en disant. Mon Dieu, je vais avoir besoin de ça un jour.
Ah,
mais...
non, vraiment pas.
C'est ça.
C'est vraiment c'est au quotidien. Je veux dire, je fais des photocopies comme à tous les jours. Puis, il y a encore des choses qu'il faut que je demande à du monde parce que je sais pas comment ça marche. Puis, sinon, une autre chose, la plastifieuse.
La plastifieuse.
Même chose. Ça prend comme 30 minutes avant qu'elle chauffe pour pouvoir plastifier tes affiches que tu vas pouvoir afficher pour les élèves. Mais ça aussi, des fois, tu le laisses là, tu attends 30 minutes, tu dis, ah, oh, je vais aller me faire un petit. Je vais aller voir un enseignant pendant ce temps-là. Puis là, tu reviens, ah, quelqu'un l'a débranché parce qu'il pensait que personne l'utilisait. Donc, c'est tout le temps comme des petites choses, tu sais, de tous les jours. Que,
faut que tu apprennes sur le top.
Vraiment. Puis moi, mon plus gros défi, je pense que ça a été rentrer les notes. Dans le fond, les notes pour faire le bulletin, ça se met dans un.
Un truc Excel?
Mais c'est dans un programme, donc comme un site internet qui s'appelle GPI, dans le fond.
Okay.
Donc, tu as la liste de tes élèves que tu as, puis tu dois rentrer tes notes ou des commentaires.
C'était compliqué.
Et des commentaires.
Un peu.
Ben, c'est parce que moi, j'ai jamais rentré ça. T'sais, dans mes stages, c'est pas moi qui ai eu à faire le bulletin ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Et là, ben, j'ai dû taponner. Et là, je les ai envoyés. J'ai écrit un petit courriel à ma secrétaire pour qu'elle me réponde que ça n'a pas fonctionné.
Bon.
Donc là, je réessaye.
Puis est-ce que tu as eu de l'aide à un certain moment donné, quelqu'un?
Ben, ma secrétaire, je lui ai écrit.
Elle t'a aidé quand même.
Je sais pas comment ça marche. C'est la première fois que je fais ça. Ça fonctionne pas. Donc, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est plein de petites choses qui font en sorte que. C'est difficile l'enseignement.
Ouais.
C'est que j'ai pas juste à planifier puis j'ai pas juste à aimer mes élèves, j'ai plein d'autres choses à faire à côté.
Ben oui, on s'en doute là, c'est non seulement t'as une responsabilité envers des enfants, mais il y a une bonne panoplie de choses à faire. Puis justement, pendant que tu parlais de la secrétaire, etc., je crois que justement les collègues, je voulais savoir comment tu t'es adapté à ton nouveau climat là, avec les collègues et tout. Je crois que tu m'as dit que c'était des fois un peu houleux, des fois c'était pas tout le temps facile.
Ben, dans le fond, faut comprendre que moi, je viens de finir mon bac. Donc, j'étais de party. Ben, je suis pas une fille de party nécessairement, mais reste que c'était ça un peu mon
jeune.
Ouais, la petite jeune. T'sais, on est les étudiants, on aime ça se faire du fun, on boit, c'est ça. T'sais, c'est la vie de party un peu. Puis après, t'arrives, puis pif paf, quelques mois plus tard, t'es rendu professionnel, puis t'as des enfants à ta charge. T'as des parents qui comptent sur toi, t'as des
directeurs. Ça te fait
grandir, vraiment. Là, c'est un choc. Puis, tu sais, t'arrives d'un milieu où tout le monde a un peu le même âge. On est tous des étudiants, tout va bien. À un milieu où mes collègues les plus proches en âge ont 10 ans de différence avec moi, que mes amis ont comme 40 ans, des enfants, des familles. Reste que c'est pas du tout. C'est plus du tout le même monde. Puis
vous avez
pour
pas
moi,
la même réalité, là. Vous êtes...
Non, vraiment pas. Pour moi, ça a été difficile. J'ai des amis pour qui ça a été plus facile. Moi, j'ai trouvé ça difficile d'arriver, puis. Tu sais, t'es plus un enfant. Là. C'est me semble que j'ai trouvé ça sec un peu comme, comme milieu. Puis aussi, ben, c'est sûr que l'enseignement, c'est comme une famille, dans le fond. Tout le monde.
Ouais. Faut que tu fites un peu dans le
monde. Ouais, c'est ça. Puis, ben, des fois, comme dans toute famille, il y a des gens que t'apprécies moins.
Ouais.
Et des gens avec qui t'es plus proche. Ben, dans l'enseignement, c'est ça aussi.
Ça doit varier, parenthèse, ça doit varier d'école en école. Hein,
oui, c'est sûr, d'une école à l'autre, plus grosse école versus plus petite école. Mais reste que t'as à travailler ensemble pour le bien des élèves.
Fait que j'imagine, une fois que tu as trouvé le bon climat, tu le gardes puis tu essaies
C'est sûr que ça crée comme des petites cliques.
Ouais, OK.
C'est un peu ça que ça fait.
Petit désagrément, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, hey, il n'y a pas juste des mauvais côtés. Je suis sûr qu'aussi, il y a des bons côtés parce que sinon, tu ferais pas ça.
Non.
Fait que justement, je l'ai dit plus tôt, dans la famille, c'est dans nos gènes et c'est comme quasiment une forme de passion. Il y a vraiment des gens qui ont comme une facilité à expliquer, à avoir une approche avec les gens pour se faire entendre, vulgariser du contenu, etc. Puis, en fait, parle-moi de ça. Est-ce que pour toi, c'est une passion, l'enseignement?
Ben, dans le fond, oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr qu'après 4 ans que tu étudies là-dedans, ou quelque chose qui est plus ou moins concret, tu as fait des stages, mais tu sais, c'est jamais très long. Et là, pour une fois, tu peux le faire. C'est libérateur. Là. Tu te crimes enfin. Enfin, je fais ce que j'aime. Je
tout
fais ce que je veux.
Tout ça amené à quelque chose.
Ça, ça menait à quelque chose. Donc, c'est ça, c'est vraiment... moi, c'est sûr que je suis encore dans un peu dans la lune de miel. Là. Je tripe vraiment sur ce que je fais. J'ai l'impression que je change le monde, un petit élève à la fois. Tu sais, j'ai comme toutes mes... Je sais pas, là. Je suis encore un peu dans la lune de miel, vraiment. Là,
est-ce que tu sens qu'un jour, ça va peut-être s'aménuiser?
Ben oui! Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Je fais une petite différence. Elle est pas grosse.
Ouais, mais là, t'en profites au max. C'est bon.
C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est ça. C'est une passion, vraiment.
Ah, ben c'est cool. Puis aussi, toi, ta situation en ce moment était un peu particulière contrairement aux autres classes. Je crois que tu m'avais expliqué assez brièvement que tu as une classe qui est quoi? Réduite? Avec ben, explique-moi, vas-y.
Ouais,
avant que je m'en parle.
Les gens n'ont pas vu ma face de comme « ish », qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais...
Elle enseigne à des animaux. Non, ça... vas-y.
Mais dans le fond, moi, comme je t'ai dit tantôt, ma directrice est arrivée avec deux possibilités de contrat. Oui. Donc, moi, j'ai signé un contrat 55% orthopédagogie. L'orthopédagogie, c'est que je n'ai pas une classe.
D'accord.
Donc, moi, je fais de l'orthopédagogie en maths et en français. Donc, je vais dans des classes chercher des élèves. Entre 3 et 5 élèves environ, là, je prends des élèves puis je vais les aider en mathématiques et en français.
D'accord.
Donc, ça, c'est pour 55% de ma tâche.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai signé. Super. Mais entre le début de l'année et la fois qu'elle m'a appelé, elle m'a proposé d'autres choses.
Mm-hmm.
Parce qu'un 55%, c'est pas tant que ça.
C'est vrai.
Donc là, elle m'a proposé un 10%. Ça veut dire une journée dans une classe d'adaptation scolaire. Donc ça veut dire que j'ai 13 élèves dans une classe. L'enseignante, c'est sa journée de congé. Puis moi, j'enseigne là, dans cette classe-là et j'ai deux matières. J'ai l'éthique et culture religieuse et j'ai l'univers social.
D'accord.
Donc j'ai 13 élèves qui ont des... c'est comme une classe qui est dite mélo-mélo. Donc, j'ai des jeunes qui ont des dyspraxies, j'ai des jeunes TSA, j'ai des jeunes qui ont juste peut-être une limite cognitive. Bref, c'est un mélo-mélo d'élèves qui ont entre 8 et 12 ans.
OK.
Puis c'est ça, moi, je leur enseigne deux matières. C'est une journée par deux semaines, dans le fond.
D'accord.
Puis après ça, c'est rajouté un autre 10%.
D'accord.
Donc, deux après-midi, un après-midi par semaine, dans le fond, je suis dans une classe où il y a seulement deux élèves. Donc ça, c'est vraiment une classe particulière. C'est un projet pilote cette année. Mais je vais enseigner l'anglais et la musique.
Oh.
Et oui, on peut en rire. Oui, je suis bilingue, mais côté musique, je connais absolument rien.
Ouais, je pense que c'était le cas de bien des enseignants en musique. Ça. OK, ça va.
Donc, dans cette classe-là, j'ai seulement deux élèves puis une TES qui est là avec moi là, pour m'accompagner. Ouais. Donc ça, c'est mon contrat. Ça fait un 75%.
D'accord. C'est diversifié, ça, c'est le fun.
Oui, c'est le fun, mais en même temps, ça amène tout un lot de défis parce que j'ai plusieurs choses à penser.
Ouais.
J'ai plusieurs choses à planifier. Puis c'est ça, comme anglais musique, c'est des matières que je ne connais pas, que je ne sais pas quoi faire. Donc, ça me prend, je veux pas, plus de temps. Puis c'est ça. Tandis que de l'anglais... français et musique, pour moi, c'est... français et mathématiques, pour moi, c'est plus facile.
Par rapport à tes élèves, justement... comme tu as pu le dire, il y a plusieurs élèves qui ont des troubles ou des difficultés diverses. Comment c'est, genre, de dealer avec ça, d'avoir une attention? Parce que j'imagine que des fois, ça ne doit pas avancer comme tu veux. Il doit y avoir des petits compromis que tu dois faire, non? Ou des façons de travailler que tu t'es donné pour, OK, eux, ils comprennent de telle façon? Ou c'est mieux de... Je ne sais pas si tu as des stratégies, là.
Je pense pas vraiment qu'il existe de stratégie. C'est sûr que, personnellement, à cause de mon parcours, j'ai plus de facilité avec des élèves qui sont TSA ou qui ont une déficience intellectuelle ou même avec des troubles de comportement, parce que moi, j'ai eu quelques difficultés comportementales, comme on en a parlé plus tôt. Donc, c'est sûr que moi, ça, c'est des clientèles qui sont plus proches de moi, pour lesquelles j'ai plus de facilité à m'adapter parce que j'ai eu à le faire dans mes jobs étudiantes.
Ouais.
Donc, ça, c'est plus facile pour moi. Mais il y a d'autres clientèles que je découvre, que je ne connais pas nécessairement, ou que oui, je dois m'adapter. C'est sûr que quand je vais dans ma classe d'adaptation scolaire, ou que c'est un peu mélimélo, mais je le sais d'avance qu'il faut que, justement, que je m'adapte.
Ouais.
Mais reste que je leur mets quand même des défis. Même s'il faut que je m'adapte, mais je me dis je vais juste plus les aider. Par exemple, en univers social, présentement, on fait beaucoup de découpage et décollage. Donc, pour des élèves qui ont une dyspraxie, donc pour qui les mouvements, c'est plus difficile, c'est sûr que pour un, c'est un défi. Puis j'en ai comme trois dans cette classe-là.
Ouais.
Mais dans le fond, je leur donne plus d'aide. Puis l'ATS, je lui dis aussi. C'est un défi, mais c'est ça. Mais tu sais, je m'empêche pas de faire des projets à cause des difficultés des élèves. Par contre, c'est ça, c'est juste de garder tout le temps... T'es tout le temps en train de penser. Tu peux pas juste te dire « Ah, c'est ce projet-là, ça va être beau, ça va être le fun. » T'es tout le temps en train de dire « OK, avec cet élève-là, ça marchera pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour quand même lui faire quelque chose puis pour pas qu'il sente qu'il fait quelque chose de différent? »
Exact.
Parce que je veux pas les élèves, ils le sentent. Dans le fond, moi, vu que je me suis spécialisée avec des élèves en difficulté, c'est sûr que moi, j'ai besoin d'aide extérieure. Donc, ben moi, en tant qu'orthopédagogue, je suis une aide extérieure, tu sais, pour les enseignants et tout ça. Mais on a aussi besoin de la psychoéducatrice. Puis on a besoin d'une psychologue. Les psychologues puis les psychoéducateurs, ben c'est eux, des fois, qui nous aident à comprendre les difficultés des élèves.
Tu peux-tu dire, juste à... Parce que même moi, je...
La distinction?
La distinction exacte.
Ben, c'est une bonne question, exactement. Je ne sais pas ce que ça fait. C'est pas les mêmes études. Non, mais je veux dire, la psychologue va faire... Si je vais vraiment plus avec pourquoi moi, je les utilise, ces spécialistes-là. Dans le fond, la psychologue va être là pour évaluer les élèves au point de vue de la psychologie, donc le potentiel cognitif des élèves. Tandis que la psychoéducatrice va être plus là dans le day-to-day life. Les assister, puis les comportements. Le comportement, c'est elle qui va venir nous aider, c'est elle qui va venir donner un peu le trouble de comportement.
Ben justement, on a une experte ici, c'est pas mal ça, ce qu'elle vient de dire. Ouais, ok, c'est bon. Elle a levé le pouce, donc t'es dans la bonne direction.
Yes! mais bref, pour parler juste de mon vécu à mon école, on n'a pas eu de psychologue jusqu'au mois de... à la mi-décembre est arrivée, donc là, elle est juste revenue dans ses petites choses.
Elle était en arrêt de travail ou?
En fait, je ne m'en souviens même plus exactement. Okay. C'est quoi la raison pourquoi on n'avait pas de psychologue? Mais reste que on a fait une liste, justement, on se rencontre les orthopédagogues de l'école, les psychoéducatrices, les directions, puis la psychologue, même si elle n'était pas là, on la mettait quand même. Puis les orthophonistes aussi, je les ai oubliés. Puis on a comme une liste d'élèves qu'on veut faire passer pour le potentiel cognitif. Donc, on veut que la psychologue les rencontre. Et la liste s'étend déjà jusqu'à l'année prochaine et on est seulement même pas à la mi de l'année encore. Donc, tu sais, dans le fond, pour répondre à ta question de base, là, on a comme parlé de la distinction entre les services. Donc, au niveau de la psychologie, à mon école, on est vraiment en manque.
Mais un psychologue, en moyenne, tu sais-tu, est-ce que c'est comme genre... un psychologue environ par école ou par le nombre d'élèves?
Une psychologue, dans le fond, va faire plusieurs écoles.
OK, c'est ça. Fait qu'il
donc, il n'y a même pas une psychologue par école. Donc, moi, je pense que déjà là, c'est un manquement. Je pense que dans une grosse école comme la mienne, où il y a plusieurs élèves, qui est près de 500 élèves, je pense que ça serait pertinent d'avoir un psychologue à temps plein.
Tandis que les psychoéducatrices, on en voit plus couramment, je crois, il y en a plus.
Pas nécessairement.
Pas vraiment?
Pas nécessairement. Eux autres aussi font plus qu'une école.
OK,
faut qu'ils... les orthophonistes aussi, on ne peut pas les oublier, donc ils se promènent,
OK.
Donc, c'est ça, je trouve qu'il manque, vraiment de services pour les élèves. Tu sais, un psychologue, si je me questionne sur mon élève qui est, par exemple, au régulier, puis je me questionne si, justement, il est toujours en échec, on comprend pas trop pourquoi. Mais on pense peut-être qu'il y a juste tout simplement une limite intellectuelle. Il faut aller le faire voir en psychologie pour ça. Mais pour ça, il nous faut une psychologue. Donc, je trouve qu'il manque de services de ce niveau-là. Puis aussi en psychoéducation, même chose. Même en orthophonie, moi déjà là, juste depuis le début de l'année, j'ai fait 3 références pour des élèves que je pense qui présentent des indices de dyslexie, dysorthographie. Mais je le sais que je ne sais même pas si elle va pouvoir les voir d'ici la fin de l'année. Puis moi, j'ai déjà 2 autres élèves en tête que je veux faire des évaluations. Donc, tu sais, je trouve vraiment qu'il y a un manque de services, un manque d'aide pour les enseignants, dans le fond, puis pour les élèves.
Venir d'un ordre général, justement, par rapport aux gens, ça éviterait peut-être aussi beaucoup de parents qui vont dire « Ah, les écoles font pas leur job » ou « Si les professeurs n'ont pas les outils nécessaires pour chaque élève », parce qu'on s'entend, chaque élève est une vie, un être humain à part entière, puis chaque élève est différent. Donc, on peut pas s'attendre à ce que tout le monde fitte dans le cadre, dans le modèle académique. Alors, c'est surtout au primaire, tu sais, c'est super important. C'est là qu'on forme justement l'esprit académique, se préparer à d'éventuelles études qui vont... On sait jamais où est-ce que ça va se terminer, là. Il y en a encore probablement pour une douzaine d'années, là. Donc, ça serait... C'est ça, c'est super important de former ces jeunes-là puis de s'attaquer à ça le plus tôt possible. Donc, c'est aberrant quand même qu'il y ait un manquement à ce niveau-là, là. Tu sais, on s'entend là-dessus.
Oui, mais c'est ça, faut comprendre que... c'est ce que je disais tantôt, tu sais, j'ai l'impression de changer le monde justement parce que je change une petite chose dans les élèves. Mais c'est justement ces élèves-là, c'est ceux qui vont s'occuper de nous plus tard. Donc, tu sais, c'est notre futur, c'est nos futurs. Nos futurs infirmiers, nos futurs caissiers au dépanneur, mais c'est nos futurs tout. Mais pour ça, il faut les équiper comme il faut.
Ça, je pense, c'est comme. C'est justement le big picture, là, comme on dit. Dans notre mentalité, je crois qu'on devrait peut-être accorder un peu plus d'importance aux enseignants et aussi valoriser un peu ce qu'ils font. Parce qu'on entend souvent des préjugés qui sont un peu dommages parce que c'est dans certains pays, je vais juste faire une parenthèse, mettons des pays scandinaves, les enseignants sont réputés, sont vus comme les plus hautes échelles de la société. Là, c'est des gens... super qui ont une notoriété là, puis ici ça dépend, on entend souvent, moi bon, moi je parle je vais parler pour, dans mon cas, l'université sont très respectées parce que c'est des gens qui ont fait des grosses études, etc., etc., mais c'est, parfois c'est des professionnels qui ont décidé de prendre, de bifurquer vers l'enseignement, puis ils se sont dit bon, mais maintenant je suis enseignant. Donc alors, tu sais, pourtant, quand tu fais le bac en enseignement, tu sais, tu t'es préparé des années, tu as eu ça en tête, tu t'es dit, je vais enseigner, je vais tu as des cours juste en fonction de te préparer à ça. Là. Ça serait important d'accorder un peu plus d'importance à l'enseignement en général.
Ben, je pense aussi que, justement, vu qu'on forge le futur dans un sens, ben, je pense que ça serait pertinent de reconnaître le ouais. travail que font les enseignants.
On va se garder des petits sujets pour la semaine prochaine avec notre experte. On va pouvoir justement toucher à ça, casser les vilains préjugés que les gens ont sur les enseignants qui sont toujours en vacances, qui travaillent pas trois quarts du temps puis qui sont bien payés, etc. On va revenir là-dessus, vous allez voir. Alors, c'est pas mal ça qui conclut cette petite entrevue-là. Ça n'a pas fait mal?
Non, ça a bien été.
Ça a bien été. Fait que tu peux arrêter d'être poli. Tu peux commencer à être ma soeur.
Yes!
Mais c'est ça. J'espère que ça va vous avoir plu, cette petite entrevue-là.
J'espère aussi, esti.
Je sais pas si tu sais. Je pense que je te l'apprends, mais tu vas être notre première.
Yes!
Fait que...
Première quoi?
Ben, première entrevue.
Yes!
Donc, on revient au chant en studio. Oli du futur et Xav du futur.
Nice! Donc, Léon, il est où?
Peut-être que Léon va être le bon. Salut là.
Donc c'est, j'espère que ça va vous avoir intéressé, cette entrevue là. On va avoir un suivi la semaine prochaine sur le même sujet avec une vétérante de la profession. Alors ça va être intéressant de voir qu'est-ce que c'est les débuts et la terminaison de tout ça. Donc on est content d'être de retour pour faire des petits podcasts comme ça. Ça nous fait toujours plaisir d'informer les gens, puis de parler de nos petites niaiseries.
C'est ça. Puis on vous avait parlé il y a quelques podcasts d'un projet vidéo qu'on avait. Mm-hmm. Donc on a fini de le filmer, puis le montage avance très rapidement. Donc on a déjà quelque chose de très très brut. On va finir de peaufiner ça, puis on va vous le... On va vous le montrer bientôt.
Je pense que les gens vont trouver ça drôle. Là.
Ouais, c'est ça. Au moins drôle. C'est sûr que c'est un peu amateur, mais je trouve que c'est quand même très bien fait pour les moyens qu'on avait. Là.
Exact. Là, c'est nous. Là. C'est à l'image du podcast.
C'est ça, voilà.
Je pense que le monde va être impressionné par ma capacité d'acter.
Ah, le talent d'acteur dans cette petite pub-là de Léon.
T'as-tu vu là, les 5 secondes que je...
Wow, spoiler, man!
OK.
Alors, juste. Ouais, on a notre trademark, les applaudissements.
Voilà.
Le self-applaudissement, ça, c'est nous autres.
C'est ça, nous autres. On se trouve bon, on se trouve beau, puis à la semaine prochaine.
Mais salut, au revoir, là.